Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
La dernière nuit qu'on est resté en Espagne, on était dans la montagne. On avait des grands feux pour se chauffer. Alors là, les personnes âgées disaient demain, on sera en France, le pays des droits de l'homme. Et on sera libre et on pourra coucher dans des lits.
Quand la France ouvre sa frontière aux réfugiés de la guerre civile espagnole, rien n'est prévu pour les accueillir. En trois semaines, près de 350 000 personnes franchissent les Pyrénées. Face à l'ampleur et la soudaineté de l'exode, les réfugiés sont parqués dans des camps de fortune qu'on appelle à l'époque camps de concentration. Les autorités françaises installent des barbelés sur un bout de plage, et voilà le camp d'Argelès ou celui de Saint-Cyprien.
Quand on passe la frontière, quand on est passé en France, on nous a fait les honneurs français avec des Sénégalais et on nous a donné une plage pour passer l'été. Une plage pour baranager.
À la fin du mois de février 39, les premiers baraquements provisoires sont construits. Mintou Koné est tirailleur sénégalais. Il surveillait les réfugiés espagnols.
Les prisonniers espagnols étaient là-bas. Nous, on les gardait. Il y avait des prisonniers à Soumer, Saint-Genis, des fontaines, des machins comme ça. Alors on nous a débarqué. Il y avait des baraquements construits en plein air. Là. On allait garder les exilés, quoi, ceux qui ont fui la guerre des Franco.
Et vous les avez rencontrés, ces gens? Vous
qui?
Avez pu parler, les exilés espagnols?
Oui, on était mélangés à eux.
D'accord, vous
avez pu discuter. On imagine, hein.
En quelle langue on se parlait?
Quoi?
Parce que ces personnes ne parlaient qu'espagnol.
Il y en a certains qui comprenaient un peu.
Oui.
On se débrouillait tant bien que mal.
Oui.
Ils comprenaient un peu.
Mm-hmm. Oui. Ils vous ont raconté un peu leur histoire?
Oui, c'était malheureux. C'était malheureux, des gens.
Il y avait des familles?
Des femmes là-dedans. Mm-hmm. Hein, des enfants. Mm-hmm. Voilà.
Il y avait les camps où il y avait les hommes, les enfants, les femmes, et d'autres camps où il y avait les hommes. Et on était enterrés dans le sable.
Miguel Vicente Jiménez arrivait à l'âge de 10 ans au camp d'Argelès.
Alors, pour se communiquer des camps, les hommes et les femmes, les gens criaient. Et je m'en souviens toujours d'un vieux aragonais qui s'appelait Esquerra. Je m'en souviendrai toujours cet homme-là. Il se communiquait avec sa femme et sa fille en chantant. En chantant des chansons aragonaises de Jota. Alors cet homme, on lui avait fusillé 27 dans sa famille. Et il est mort au camp d'Argelès.
On était 8 et une petite de 2 mois. Et une petite de 3 ans, dans le local.
Carmen Gallardo a 15 ans quand elle arrive au camp d'Argelès. Elle y restera un peu plus d'un an.
Des baraques qui sont faites en bois et sous le sable. On n'avait pas de plancher, on était sous le sable. Ces baraques que vous faites pour les poulaillers. Et on vivait l'eau de la mer, ça il faut le dire.
On commençait le mois de février, mais c'était pas chaud, hein. Les besoins naturels se faisaient là, à le pied dans l'eau, parce que tout le reste de sable était occupé par tout le monde.
Martial Mayans, combattant espagnol de la colonne d'Urruti, il a 19 ans quand il entre au camp d'Argelès.
Il y avait un certain endroit où il y avait les familles, là ils étaient un peu mieux, mais les autres qui étaient sans famille, il n'y avait pas eu moyen de communiquer encore. On était malheureux comme tout. J'avais fait un trou dans le sable et pris un pneu et tout le monde faisait pareil. On mettait le feu au pneu et ça vous servait de chauffage, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Mais avec le camp de la Tramontana, souffler, allait bien, puisque tout s'en allait vers la mer. Mais quand c'était la marinade, alors la fumée âpre et dégoûtante de caoutchouc qui brûle, on se choquait, c'était mauvais comme tout.
Parce que Argelès, il y avait un bras de mer qui venait sur les vignes. Il y a une petite rivière qui descend de l'autre côté. Et nous étions là, dans ce machin. Et le bras de mer, on ne pouvait pas passer de notre camp quand ils montaient la mer. Et les Espagnols, enfin les réfugiés, là, ils ont fait un pont. Il y avait ce bras de mer qui coupait le camp des femmes avec ça des hommes.
Alors, quand il y avait des visites, qu'ils puissent voir les femmes avec leurs maris et les enfants, il y avait des parloirs. C'est-à-dire, il y avait des espèces de rangées longues, avec plein de barbelés, par en haut, par en bas et partout. Et séparés. Et les femmes parlaient avec leur mari ou leur frère dans le parloir, mais parmi les barbelés.
On pouvait aller des fois, on pouvait aller voir les unes et les autres, mais ce n'était pas permis. Si on t'attrapait, le jour, ils te foutaient comme ça. Un coup de pied, oui, les gendarmes, j'en étais affreux. Affreux, j'étais les gendarmes.
Vous considériez comment ?
Comme des bêtes sauvages. Pas même des bêtes sauvages, parce qu'on serait été des bêtes sauvages, on se serait révoltés. Mais on ne se révoltait pas, on ne pouvait pas. On ne peut pas se révolter contre une armée avec des choses, mais on ne peut pas se révolter. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Queremos ir a Chile, al China o al Japón, menos quedarse en Francia, que de los españoles tan solo se merece una gran maldición. Pobres refugiados, siempre rodeados de alambres, de moros y de gendarmes. Te pudres en Argelés, limpiar las litrinas, y esta es tu misión hasta el día que te mueras rabiando en un rincón.
La comida que nos daba.
Francisco Lara Campoy, combattant républicain, il a 25 ans quand il passe par le camp d'Argelès.
Para que vea, eran garbanzos.
Ce qu'ils nous donnaient à manger, pour que vous vous rendiez bien compte.
Des pois chiches. Je comptais un jour.
Un jour, j'ai compté combien il y avait de pois chiches dans mon assiette.
En mi plato, 12.
Il y en avait 12.
Il y avait presque rien à manger. On nous donnait une louche d'eau bouillie. Avec des fois c'était des rutabaga et des fois c'était topinambour qui était immangeable parce qu'il était noir et mauvais.
Había eso y había también nos daban un pain.
Et puis il nous donnait aussi un pain.
De
un pain rond de militaire.
Un pain. Creo que un pain era para,
je crois que c'était pour 4 ou 5 personnes.
Para 4 ou 5 personnes, hein.
Alors, c'était des boules rondes. Ces boules, on les mettait sur une planche et on les mesurait avec une ficelle. Et on coupait.
Bueno, ils sont inventos que.
Bon, il y avait des trucs qu'on a inventés nous-mêmes.
Se cortaba un pain en 4 ou 5
parties. Par exemple, on coupait un pain en 4 ou 5 morceaux.
Y no le dábamos comme ça.
Mais on ne les donnait pas comme ça.
Para que nadie pensara que tenía un pedazo más grande que
l'autre. Que personne ne pense que quelqu'un en avait plus que les autres.
Entonces,
en fait,
hicimos un juego.
On faisait un jeu.
Il y en a qui devait se tourner de l'eau. Et dire, pour qui c'est celui-là, c'est pour un tel. Pour qui c'est celui-là, c'est pour un tel. Pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Mais après, les miettes qui restaient sur la planche, tout le monde s'est jeté, se battait pour les ramasser, pour les manger.
Et pourtant, on avait 5 francs par jour. Il y en a qui sont fait de l'argent avec ça. Ouh, si vous saviez les riches qui se sont fait. Parce qu'ils ont profité de tout. Les bijoux. Déjà, ils vendent ces bijoux pour rien du tout, pour avoir de, pour écrire à leur famille, rien que pour écrire à leur famille, parce qu'on ne pouvait rien acheter. Et ils ont profité de ça. Et ils ont profité de ça. Tous ces gendarmes et tous ces machins, ils ont fait des fortunes. Ça, je vous le dis.
Amb les calces courtes, i menjant llenties, i jugant al futbol, passen els meus dies. Avec mon short, les machins courts, et je mange de lentilles, on joue au futbol, comme ça je passe ma journée.
Joder, dans le camp, joder. On n'a pas eu de vie d'enfant. Non. On était comme les adultes. On était, vous vous dites, abrutis, quoi. Parce que c'était des enfants sans lettres. Sans lettres.
La plus petite chose nous distrayait.
Par exemple, nous nous distrayait de...
José Pobla.
Comme veille un vaixell que sortia de Port-Vendre.
Moi, j'aimais voir les bateaux sortir de Port-Vendre. On avait l'impression qu'ils sortaient de la montagne. Je ne connaissais pas Port-Vendre, et cela me distrayait de voir ce bateau qui sortait de derrière la montagne.
E nel fondo del mar matarilleril, e nel fondo del mar matarillerillero, che le irà a buscar matarillerillerille, che le irà a buscar matarillerillero.
En 40, quand il y a eu l'inondation, nous étions là, la baraque est partie. Et alors, quand il y a eu l'inondation, eh bien, personne n'est venu. Les hommes, ils voulaient venir pour sauver les femmes. Parce que moi, j'étais, comme d'ici, à la mer. Hein.
Tout le camp a été inondé. Alors, on était montés sur les toits des baraques. Alors, les gendarmes passaient avec des canoës en disant que c'est lui qui veut aller avec Franco. On le sauve. Ceux qui voudront parler avec Franco, ils crèveront. Alors, personne n'est descendu.
La mer, je l'ai pris... horreur. Je ne suis pas bien à la mer. Elle a quelque chose qui me gêne dans la mer. À la mer, on dirait que je l'ai... comme si on m'aurait blessée. Vous savez, elle m'a blessée, la mer. Cette eau qui est venue froide, les inondations, tout ça, et qu'on n'a pas pu sortir de là, vous savez, ça a été terrible.
Après les premiers camps de concentration d'Argelès, Barcarès et Saint-Cyprien, d'autres camps seront construits, citons Rivesaltes, Gurs, Agde, Noé et Sept-Fonds.
J'avais attrapé le typhus et on te mettait dans une baraque à part, on te soignait pas. Or, j'étais resté longtemps dans une baraque et un beau jour, les docteurs, c'était ou des docteurs espagnols ou juifs, et il m'a dit: t'es encore là? Oui, eh bien, va-t'en dans ta baraque. J'étais maigre. Mais on ne m'a pas soigné rien.
À ce moment, j'ai attrapé une bronchopneumonie qu'il fallait passer. Comme il me disait le docteur français après, parce que tu étais très jeune. Et tu avais une santé comme ça et puis tu étais très jeune. Mais sinon, j'ai une bronchopneumonie que je croyais que j'allais passer.
Mariano Constante, 19 ans, interné à Sept-Fonds, dans le Tarn-et-Garonne.
À Sept-Fonds, on était 26 000, parce qu'il y a eu d'autres camps. Il y a eu Argelès, il y a eu Barcarès, il y a eu Saint-Cyprien, il y a eu d'autres camps, il y a eu Gurs. Hein. On était là-dedans, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec nous? Qui voulait? Les officiers français, les autorités françaises, ben, c'était se débarrasser de nous, n'importe comment.
Ils voient il y a une femme. Elle doit être morte maintenant. Je crois qu'elle était partie de tout, côté de Toulouse, je ne sais pas où. Elle s'appelait Isabel Salgado, je me souviens bien. Cette femme, c'était une grande révolutionnaire. Et c'était le 1er mai. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé un chiffon rouge. Et avec un bâton, elle a fait un drapeau. Alors elle défilait partout. Et il y avait des gens qui étaient derrière elle. Alors elle a été attrapée par les gardes. Elle a été mise dans un cachot. Et tapée pendant quelques jours sans lui donner à manger.
Mais par exemple, à un moment donné, on avait réussi à tous les matins, il rentrait à cette fonche l'humanité. On passait. À l'époque, avec Gabriel Péry qui faisait les articles de ses éditoriaux. Et c'était un gendarme, c'était un gendarme français qui nous faisait rentrer l'humanité à cette fonche pour les communistes. pour les communistes. Alors il a fallu trouver un copain espagnol, communiste comme moi, qui sache le français mieux que moi, les quatre mots que j'avais. Bon, ben, lui rentre l'humanité dans le camp clandestinement. Après, c'était ce gars-là qui était de Barcelone, ce gars-là qui était parti aussi. Lui, parce que moi je ne comprenais pas tout, mais loin de là. C'était lui qui comprenait très très bien le français. Et moi, je l'écrivais en espagnol. Et je faisais tous les matins le résumé de l'article de Gabriel Péri en espagnol au camp des Esfons. Et ça, ils n'ont jamais su les Français parce que c'est eux qui l'avaient su. C'est pas là.
Arthur Kerry Escorriguel.
Voilà. Ça, c'est les camps d'Argelès-sur-Mer, le premier camp. Alors, je m'arrangeais toujours pour que les gardiens me donnent des plumes, des stylos ou de papier. Argelès, regardez si c'était triste. Vous voyez, on allait faire nos besoins dans l'eau. Ça, c'est terrible. Un camarade qui il voulait trouver sa femme, il s'est mis dans l'eau, il est mort noyé. Il y en avait qui devenaient fous. Hein. Il y en avait un qui dans les fils de fer, il mettait du pain. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai gris du pain. On lui dit, je m'écoute. Tu vois jamais. Et alors là, c'est une chose comique. On avait fait des spectacles quand même, ne croyez pas que tout était. Vous voyez, on avait fait un spectacle que personne ne regardait, et les gendarmes venaient, vous voyez. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, si yo estuviera en Asturias, en algunas ocasiones. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón.
Ça chante, dans la tristesse, ça chante. La nuit, dans les baraques, il n'y avait pas de lumière ni rien. On était couchés, les femmes chantaient. Alors, ils racontaient les histoires d'avant. L'espagnol est ça. Plus il est triste, plus il chante.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de trois générations. Carmen Gallardo, Mintou Koné, Miguel Vicente Jiménez, Martial Mayans, Angel Alvarez, José Pobla, Mariano Constante, Francisco Lara Campoy et Arthur Kerry Escorriguel. Témoignages recueillis par Marie-Annick Bello, Julia Taourinha, Delila Benzerfa, Pascal Guérive et Manuel Plaza. Traduction d'Albert Noguet, François Gersan et Jean-Pierre Fonoloza. Une musique originale de Guillaume Séguron. Un documentaire signé Olivier Constant et Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault avec la participation de Marie-Annick Bello. Mémoire des républicains espagnols, témoignages d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, Direction de la culture et du patrimoine.